Ce texte de l'évangile de Jean est souvent appelé appel des premiers disciples. Mais qui appelle ? Jésus ? Eh bien non. Ici, ce n'est pas Jésus qui appelle, mais ce sont les deux disciples qui vont vers Jésus sans que lui n'ait rien dit. Verset 35, le jour suivant, Jean-Baptiste est là avec deux de ses disciples. Il regarde Jésus qui passe et dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les deux disciples entendent ces paroles et suivent Jésus. Il est intéressant de voir que ces deux hommes suivent Jésus car ils ont entendu d'abord une parole dite par Jean. Voici l'agneau de Dieu. Et nous, quelle parole nous a conduit à suivre Jésus-Christ? Quel appel avons-nous reçu? Est-ce par une personne que nous avons reconnu Dieu, comme les disciples avec Jean, ou encore comme le jeune Samuel, aidé par le vieil Élie? La parole de Dieu nous conduit vers le Christ. C'est un chemin qui ne se fait pas forcément aussi rapidement que pour les deux disciples. Il faut parfois du temps pour reconnaître vouloir suivre Jésus. Ce chemin est même parfois semé d'embûches, de déceptions, de doutes et de difficultés. Cela rappelle le chemin des migrants. Les témoignages que nous avons entendus montrent à quel point la route est longue, périlleuse, désertique parfois. Ainsi, nos trois objets, la barque, le bâton et la jarre d'eau, représentent le chemin des migrants, mais aussi notre propre route aux côtés du Christ. Et en même temps, tout chemin est riche. Toute traversée, toute avancée a aussi ses richesses. Il y a ceux qui cheminent, ce que l'on vit en chemin, et ce que l'on rencontre sur le chemin. Un couple de notre communauté est parti plusieurs mois sur le chemin de Compostelle. Malgré les soucis physiques et matériels, ils témoignent aujourd'hui combien ce cheminement a été riche au niveau spirituel et combien toutes les rencontres faites les ont transformées. Revenons à notre texte de Jean. Donc les disciples décident de suivre Jésus grâce à la parole de Jean, « Voici l'agneau de Dieu ». Et cette parole est une confession de foi. Ce chemin que les deux disciples vont parcourir va les mener eux aussi à confesser leur foi en Christ. Souvenez-vous, à la fin du texte, André dit à son frère Simon, « Nous avons trouvé le Messie ». Un double mouvement dans notre texte. Une parole reçue de Dieu, Jean qui confesse sa foi, et cette parole conduit les deux hommes à suivre le Christ et à confesser à leur tour leur foi. Dans ce tout petit passage de l'évangile de Jean est résumé en quelques mots notre propre cheminement de croyant. Un jour, à un moment donné, nous sommes témoins de quelque chose. nous recevons un appel. Alors, nous nous mettons en marche pour suivre le Christ. La route que nous traversons n'est pas toujours facile, mais par ce cheminement, nous pouvons confesser à notre tour notre foi au Dieu vivant. Jésus, donc, n'appelle pas ses disciples, nous l'avons dit. Et notre texte nous le présente même comme étonné de les voir le suivre. Quand Jésus voit les deux hommes derrière lui, il leur demande « Que cherchez-vous ?» Et nous, chrétiens, nous qui allons vers le Christ, que cherchons-nous ? Ce matin, nous avons choisi de nous rassembler dans cette église pour notre célébration œcuménique annuelle. Que cherchons-nous ? À témoigner que nous pouvons prier, louer Dieu et écouter sa parole ensemble. Nous cherchons à construire l'œcuménisme, à être côte à côte, sans tout mélanger, à célébrer ensemble, sans gommer nos différences et en les transformant en richesse. Que cherchons-nous ? C'est la question que Christ nous pose ce matin. Et dans le texte, les disciples répondent à Jésus par une autre question. Maître, où habites-tu ? Dans cette église ? Dans un temple ? Où es-tu ? Jésus nous répond : Je suis là ce matin, présent parmi vous, comme je suis là aussi, dans le cœur de tous ceux qui m'invoquent et qui confessent que je suis leur Seigneur. Dans les églises catholiques, anglicanes, luthériennes et orthodoxes, par toute la terre, dans les temples réformés, baptistes, adventistes et évangéliques, dans les humbles demeures de celles et ceux qui me prient de chez eux, dans la montagne, quand le randonneur chante mon nom devant la beauté de la création, dans le lit avec le malade, et encore au cœur des plus abominables violences, quand l'humain crie son désespoir, comme moi-même je l'ai crié sur la croix. Je suis là. Jésus-Christ est en nos cœurs, quand, comme les disciples, nous confessons qu'il est notre Messie. Il y a quelque temps, un monsieur catholique d'une autre région venu assister à un de nos cultes me disait « Nous devons retrouver l'essentiel, et l'essentiel, c'est le Christ. Nous avons une même parole, un même Père, nous sommes donc un même peuple. » Oui. L'essentiel n'est ni l'Église protestante, ni l'Église anglicane ou orthodoxe, ni l'Église catholique. L'essentiel, c'est Jésus-Christ. C'est lui et lui seul qui nous rassemble ce matin. Que cherchons-nous ? À servir une idée, une Église ou une conviction ? Ou à servir notre seul Sauveur et Maître Jésus-Christ. Si nous pouvons répondre oui à la deuxième question, alors nous sommes capables d'avancer côte à côte sur notre chemin avec le Christ. Car nous marchons pour une même cause, annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, son amour pour tous. Notre témoignage est commun. Peut-être certains doivent me trouver ce matin bien irréaliste, peut-être la fougue de la jeunesse, bien sûr, nous sommes différents. Et certaines de nos différences, comme l'Eucharistie, les ministères, le Père Chanché en reparlera tout à l'heure, certaines de ces différences nous semblent insurmontables. Mais vous savez, la bonne nouvelle de Jésus-Christ nous est donnée dans la Bible de façon très différente. 4 évangiles, 4 annonces différentes, sans compter les apôtres, tous aussi différents, Paul, Pierre et autres Jacques. Alors pourquoi pour nous chrétiens, ce serait un mal d'être différents? C'est une chance. La diversité rend plus fort si nous acceptons d'admettre que nous avançons pour la même cause, l'annonce de la bonne nouvelle pour tous. Et je sais aussi, car la Bible me le dit, que rien n'est impossible à Dieu, et que ce qui est invisible à nos yeux, l'unité, Dieu peut le voir dans nos cœurs. La confiance. Voilà ce à quoi nous sommes appelés. Je voudrais maintenant terminer sur la toute fin de notre texte de Jean. Après la confession de foi des disciples, Jésus dit à Simon, « Tu es Simon, fils de Jean, tu t'appelleras Cephas, qui veut dire Pierre. » Aux côtés de Jésus, nous sommes reconnus. Jésus nous donne un nom, une identité. Nous tous qui confessons notre foi en Jésus-Christ avons une identité, celle de fils et filles de Dieu. Nous sommes tous ici, comme ceux du dehors à travers le monde entier, les enfants du Dieu vivant. Nous sommes frères et sœurs. Comme le dit le passage de la lettre de Paul aux Corinthiens que nous avons entendu, nous sommes le corps du Christ. Cette année, c'est l'année Saint-Paul, ou Paul, comme vous voulez, et c'est aussi l'occasion de réfléchir ensemble sur cet apôtre. Nous avons déjà pu le faire lors d'une journée à la Puglia à l'automne, avec les amitiés judéo-chrétiennes. Nous le ferons aussi dimanche prochain à la cathédrale, en méditation. Mais de telles initiatives partagées ne sont peut-être pas assez nombreuses. Alors, même si préparer et organiser une telle célébration n'est pas facile, et que de chaque côté, il nous semble parfois perdre certaines choses, je sais que dans nos cœurs, nous sommes vainqueurs. Vainqueurs, car Jésus-Christ ce matin est là, et par sa parole et son esprit, transforme nos cœurs, pour que nous puissions encore marcher ensemble pour la seule gloire de notre Seigneur. Et alors nous pourrons entendre, à notre propos, comme l'a dit Dieu au prophète Ézéchiel, dans ce verset choisi pour cette année, pour la semaine pour l'unité des chrétiens, « Ils seront unis dans ta main. » Oui, Saint-Esprit, nous t'en prions, transforme nos cœurs afin que nous soyons unis dans ta main pour toujours.